L'histoire est comme un clin d'œil, furtif, aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107 FM. Épisode 14, la Gestapo, dernière partie. Nous l'avons vu la dernière fois, la guerre a largement contribué à étendre les compétences de la Gestapo. Déjà essentielle dans le raffermissement du pouvoir hitlérien dans la fin de la décennie 1930, son rôle est devenu vital pour le maintien de l'ordre et la répression dans tous les territoires occupés pendant la Seconde Guerre mondiale. Himmler, épaulé par l'homme fort du RSHA, l'Office central de sécurité du Reich, Rudolf Heinrich, ont obtenu et accumulé les honneurs et les postes de prestige car les nouveaux territoires conquis à l'ouest et surtout à l'est de l'Europe ont exigé une présence de la police d'État partout en Europe. Outre l'augmentation substantielle des effectifs, la Gestapo a aussi vu son champ de compétences considérablement s'élargir dans ce contexte de guerre. La lutte contre les mouvements de résistance, les opposants politiques et la traque des ennemis désignés du Reich ont en fait offert une place de choix à la Gestapo. En plus, Göring lui a confié à la fin de l'année 1941 la lourde tâche de résoudre la question juive qui représentait alors plus de 11 millions de personnes. Après la conférence de Wannsee, réunie à l'instigation de Heinrich en janvier 1942, les responsables du RSHA et du gouvernement du Reich ont consensuellement adopté l'idée que ces populations devaient être purement et simplement éliminées. Restait maintenant à définir une méthode pour pouvoir agir de la façon la plus efficace possible. Mais au sein même de la Gestapo et du RSHA, les premières dissensions se font sentir malgré la toute-puissance de l'organisation. Heinrich, grâce à toutes les casquettes qu'il revêtait, commençait à sérieusement faire de l'ombre à son supérieur théorique, Heinrich Himmler, qui l'avait lui-même placé à la tête du RSHA en 1939. De la même façon, les confrontations entre la Gestapo et la Wehrmacht devenaient de plus en plus nombreuses. Les généraux de l'armée du Reich, alors aux prises sur deux fronts, face aux alliés en Afrique et à l'ouest de l'Europe, et à l'URSS qui a commencé sa reconquête après la fin de la bataille de Stalingrad en 1943, vivaient de plus en plus mal l'empiètement constant des agents de la Gestapo sur leurs prérogatives. Ces genres de désordres étaient habituels chez Hitler, qui a toujours eu un tel mode de concurrence. Il n'y a qu'à se rappeler les luttes entre les SS et les SA qui avaient fini par un bain de sang lors de la nuit des longs couteaux en 1934. La même chose se produisait à ce moment clé de la guerre. Et c'est sans doute ces divisions intestines qui ont précipité la chute du Reich qui devient de plus en plus inéluctable après l'hiver 1943. Toutefois, cela n'a pas empêché la Gestapo de ralentir ses activités. Au contraire, il semble que tous les coups durs qu'encaisse le Reich sont prétexte pour durcir davantage le régime. Avec l'avancée progressive des alliés, les exactions à l'encontre des populations se sont multipliées. L'extermination des Juifs et des Tziganes s'est également accélérée. C'est un peu comme si le régime partait dans une fuite en avant en sentant sa fin approcher. Cela renvoie à la phrase d'Alfred Rosenberg, alors ministre du Reich aux territoires occupés de l'Est, qui avait dit lorsqu'il parlait de la décision d'éliminer tous les Juifs d'Europe « Cette information suscite une volonté de contribuer à la tâche historique que le destin a confiée à l'Allemagne nazie. » La survie du Reich était-elle passée au second plan? Peut-on dire que la Gestapo a précipité la chute de Hitler et du nazisme qu'elle incarnait pourtant?
Pour répondre à ces questions, presque plus philosophiques qu'historiques, nous allons d'abord voir comment la Gestapo a organisé l'extermination des Juifs après Wannsee, et ce malgré la disparition prématurée de son initiateur, Reinhard Heydrich. Puis, nous verrons comment Hitler reprend le contrôle des choses et mène désormais la politique d'extermination des ennemis du Reich. Et enfin, nous analyserons comment tombe à la fois le Reich et la Gestapo, qui, nous le verrons, n'a en rien su ralentir cet effondrement annoncé du système hitlérien. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Raphaël, notre récit d'aujourd'hui commence par une dépêche parue le 30 mai 1942 dans le bulletin officiel à Berlin. Je cite, un attentat a été commis par des inconnus le 27 mai à Prague sur la personne de l'adjoint au protecteur du Reich en Bohême-Moravie, le SS Obergruppenführer Reinhard Heinrich. Le SS Obergruppenführer Heinrich a été blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Une prime de 10 millions de couronnes est offerte pour la découverte des coupables. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé ?
Il semblerait pour une fois que Himmler soit étranger à cet attentat. Ce serait plutôt un acte de la résistance tchécoslovaque. Heinrich, qui roulait dans les faubourgs de Prague, assis aux côtés de son chauffeur, a été attaqué par deux résistants formés en Angleterre et parachutés en Tchécoslovaquie quelques jours auparavant. Le premier a tiré au pistolet sur les deux occupants de la voiture. Le chauffeur, inexpérimenté, plutôt que d'accélérer comme il aurait dû le faire, a ralenti la voiture. Ça a laissé le temps au second tchécoslovaque de jeter une grenade sous la voiture, et Heinrich a été grièvement blessé par les éclats de la grenade. Opéré d'urgence, son état s'est soudainement aggravé le 3 juin, et il meurt le lendemain. La Gestapo a répondu par des représailles sanglantes. 3000 arrestations ont eu lieu, et 1350 personnes sont exécutées, ainsi que 152 juifs de Berlin. Les deux coupables, qui s'étaient réfugiés avec d'autres résistants dans une église, sont assiégés et tous tués. 15 000 km² et 5000 communes sont fouillées et 567 personnes fusillées sur place. En plus, deux villages soupçonnés d'avoir abrité les auteurs de l'attentat sont châtiés à Lidice et Lezaki. Le 9 juin, les hommes, les adolescents et la moitié des femmes sont exécutés tandis que le reste est déporté à Ravensbrück. Les enfants sont soit tués, soit placés dans de nouvelles familles, et les villages, quant à eux, sont dynamités et complètement rasés. Un communiqué laconique a permis de justifier cette répression extrêmement féroce.
Au cours des recherches de l'assassin de l'Obergruppenführer SS, il a été démontré que la population du village de Lidice, près de Kladno, a aidé les coupables du crime et coopéré avec eux. Le fait a été démontré bien que la population nie avoir coopéré. L'attitude de la population à l'égard du crime se manifeste aussi par d'autres actes hostiles au Reich. Par exemple, on a découvert une littérature clandestine, des stocks d'armes et de munitions, ainsi que l'existence d'un poste émetteur et d'un dépôt illégal de grandes quantités de produits rationnés. Tous les hommes du village ont été fusillés. Les femmes ont été déportées dans les camps de concentration et les enfants envoyés dans des maisons appropriées pour y être éduqués. Tous les bâtiments de ce village ont été rasés jusqu'au sol et le nom du village supprimé.
Donc on voit bien que ces représailles montrent comment l'exercice de la terreur dans les territoires occupés a permis aux Allemands de décourager les mouvements de résistance. Pour la Tchéquie, ces brutalités ont duré tout au long de la guerre. La prison de Brno a vu ainsi transiter presque 200 000 détenus et seuls 50 000 ont retrouvé la liberté en 1945. 305 000 ont été déportés, parmi lesquels 75 000 sont sortis vivants de cet enfer.
En bref, ils ont agi avec leur brutalité habituelle. Mais si l'on revient à la mort de Heinrich, la Gestapo et le RSHA se retrouvent à la mi-42 sans chef, alors même que ces institutions sont chargées d'exterminer la population juive qui s'entassait dans les ghettos polonais.
Oui, Himmler réfléchit longuement au successeur qu'il souhaitait introniser à la tête du RSHA. Il souhaitait mettre en place un homme suffisamment compétent, sans toutefois qu'il ne puisse être, à terme, un concurrent comme l'était devenu Heinrich. 8 mois après la mort de ce dernier, c'est un Autrichien du nom de Ernst Kaltenbrunner qui est choisi. Ce militant nazi de la première heure avait, depuis l'annexion de l'Autriche en 1934, gravi les échelons et s'était spécialisé dans le renseignement. Himmler gardait cependant la haute main sur le RSHA pour éviter que, comme son prédécesseur, Kaltenbrunner ne puisse prendre trop d'importance. Certes, il n'avait pas le tempérament chaud et meurtrier d'un Heinrich, mais son sens juridique a donné plus de froideur au RSHA. L'un de ses collaborateurs et espions, à l'Abwehr, pendant la guerre, Hans Givesius, le définit ainsi lors du procès de Nuremberg.
Kaltenbrunner vint et tout empira de jour en jour. Nous nous rendions compte que les impulsions d'un assassin comme Heinrich étaient peut-être moins terribles que la logique froide et juridique d'un avocat qui avait entre ses mains un instrument aussi dangereux que la Gestapo.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Raphaël, quelle direction prit après cette nomination la Gestapo en ce début de l'année 1943?
Mais nous sommes justement au tournant de la guerre, au moment où Kaltenbrunner arrive. Et la direction, suivie par le RSHA, est d'accélérer le processus génocidaire en réponse au recul des forces de l'Axe en Europe. Un peu comme si nous étions, désormais, dans une situation d'urgence. Adolf Eichmann, en tant que chef de l'Amt 4B, dédié à la question juive, est alors devenu un personnage de premier plan. Si bien qu'il prenait désormais ses ordres directement d'Himmler, sans passer par le chef de la Gestapo, Müller, ni le directeur du RSHA, Kaltenbrunner. Cette nouvelle dynamique a été lancée le 9 octobre 1942 par une première ordonnance signée par Bormann, alors chancelier du parti. Il prescrivit que, je cite, « l'élimination permanente des Juifs des territoires de la plus grande Allemagne ne pourrait plus être effectuée par l'émigration, mais par l'emploi d'une force impitoyable dans les camps spéciaux de l'Est ». Le 1er juillet 1943, une nouvelle ordonnance, signée par ce même Bormann, interdisait tout recours auprès d'un tribunal civil aux Juifs. Seule la Gestapo était dès lors compétente pour statuer sur leur sort. Ces deux documents ont donné des coups d'effranche à Adolf Eichmann, qui a organisé après ces dates la déportation massive des Juifs vers les camps de la mort. Pour l'occasion, il a créé quatre camps, dont celui de Mauthausen, conçu comme une forteresse et destiné à l'extermination des Juifs épuisés par les travaux forcés dans les camps voisins. Il a également mis au point les méthodes d'acheminement des déportés via le réseau ferré, principalement vers Auschwitz ou Majdanek, en fonction des capacités d'absorption de ces camps. Il est à l'origine des nouveaux règlements établis dans ces camps, consistant par exemple à gazer dès leur arrivée tous les enfants jusqu'à 12 ou 14 ans, les personnes de plus de 50 ans, les malades et ceux qui avaient un casier judiciaire chargé. Les autres étaient inspectés par un médecin qui déterminait s'ils étaient capables de travailler. Ceux qui ne répondaient pas à ces critères étaient gazés. Les aptes s'épuisaient rapidement au travail, puis ils étaient gazés à leur tour pour laisser place à de nouveaux détenus. Ainsi, on estime à 6 millions le nombre de victimes des 6 camps d'extermination construits ou juste agrandis à partir de 1943. Je les cite Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Chełmno et Belzec. Ces 6 camps étaient tous situés en Pologne pour la bonne et simple raison que c'était là que nous trouvions le plus de juifs. Cela nous renvoie en outre aux propos de Joseph Buller, représentant du gouvernement général de Pologne lors de la conférence de Wannsee, qui avait demandé qu'il serait heureux de voir commencer sur son territoire la solution finale. Là, en effet, le problème des transports ne se présentait pas, puisque le pays est globalement plat et le déroulement de l'opération ne serait pas gêné par des considérations de main-d'œuvre. Alors que l'horreur se déroulait dans ces camps, les nazis ont tout de même veillé à camoufler ces camps de la mort en zone industrielle, comme en témoignent les photos de Auschwitz prises par des avions britanniques, qui ne dévoilaient que ce qui ressemble à de grandes usines, avec ces immenses cheminées qui crachaient une épaisse fumée noire 24 heures sur 24. Mais à la fois, la Royal Air Force recherchait plutôt des fabriques d'armes telles que les usines IG Farben, qui étaient situées seulement à quelques kilomètres d'Auschwitz. Cela dit, même au moment de leur départ, alors que tout était perdu, les Allemands ont tenté d'effacer leurs crimes en brûlant une partie des archives des camps ou en rasant les traces de leurs crimes, comme ça a été le cas avec le camp de Treblinka.
Na tym polega niepowtarzalny urok naszych okolic i tutejszych lasów. Piękny drzewostan, dużo zwierzyny.
C'est le charme de nos forêts, ce silence, cette beauté.
Ale muszę pani powiedzieć, że nie zawsze tutaj panowała taka cisza.
Mais je dois vous dire que ce silence ne régnait pas toujours ici.
Był okres, kiedy okolice miejsca, w którym się teraz znajdujemy, napełnione były.
Il y avait une époque où là où nous sommes, c'était plein de cris, des coups de feu.
Krzykiem mordowanych, strzałami.
D'aboiement.
Wyciem i szczekaniem psów. To były czasy, które powiedzmy sobie jakoś tak ludzie tutejsi mocno zapamiętali.
I c'est surtout cette période-là qui est restée gravée dans la mémoire des gens qui habitaient ici à cette époque.
Po tym buncie w 1943 roku w październiku Niemcy zaczęli, powiedzmy, demontować obóz.
Après la révolte, les Allemands ont décidé de liquider le camp et au début de l'hiver 1943, ils ont planté des petits sapins de 3 ans, 4 ans pour camoufler toutes les traces.
Bien ce rideau d'or. Tac, tac.
Oui.
Tout ça, c'était l'emplacement des fosses communes.
Tout a été. Oui.
Wynika, że ich nie było, bo jak w 1944 roku ja się tu znalazłem, to tu, tylko tam dopiero w głębi były drzewa, a tutaj była pusta przestrzeń.
Quand il est venu pour la première fois ici en 44, On ne pouvait pas se douter de ce qui s'est passé ici. On ne pouvait pas deviner que ces arbres cachaient le secret d'un camp d'extermination.
On vient d'écouter cet extrait de Shoah, le documentaire de Claude Lanzmann, qui parle de cette tentative de dissimulation du camp de Treblinka. Mais Ravel, vraiment, les alliés ne savaient-ils rien du génocide avant la fin de la guerre ?
Il est a priori difficile de savoir si les forces alliées étaient au courant de la mise en route de ces camps de la mort. Cependant, nous savons aujourd'hui que plusieurs rapports écrits par des espions rendaient compte de cette réalité. Le plus connu d'entre eux est le témoignage de Jan Karski, résistant polonais de la première heure qui a été témoin très tôt des atrocités nazies commises à l'égard des juifs. Il a notamment visité clandestinement le ghetto de Varsovie et un camp de concentration en 1942, a priori celui de Belzec, qui est devenu ensuite un camp d'extermination. En novembre 1942, il est envoyé à Londres pour témoigner de ce qu'il a vu. C'est la première fois que des preuves officielles de la mise en place d'un génocide sont apportées aux Alliés. D'ailleurs, le 17 décembre 1942, le ministre des Affaires étrangères Anthony Eden prononce solennellement devant le Parlement ses propos qui se basent sur le rapport Karski.
Dans tous les pays sous occupation allemande, les Juifs sont transportés par train dans des conditions d'horreur et de brutalité inconcevables vers l'Europe de l'Est. En Pologne, qui est devenue le principal abattoir nazi, les ghettos établis par l'envahisseur allemand sont systématiquement vidés de leurs Juifs, à l'exception de ceux nécessaires au travail forcé pour leurs industries de guerre. Aucun de ces déportés n'a plus donné signe de vie. Les individus valides sont peu à peu usés à mort par les camps de travail. Les infirmes sont laissés à mourir d'exposition aux intempéries et des privations ou sont délibérément massacrés dans des exécutions de masse. Le nombre de victimes de ces sanglantes cruautés est exercé sur plusieurs centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants entièrement innocents.
Oui, ce n'est pas tout. En juillet 1943, Jan Karski a rencontré le président Roosevelt pour tout lui dire, ainsi que les hauts magistrats états-uniens, dont un certain Félix Frankfurter, juge à la Cour suprême et juif lui-même. Ce dernier aurait répondu, après avoir écouté Karski, « Monsieur Karski, un homme comme moi parlant à un homme comme vous doit être tout à fait franc. Je dois donc vous dire que je suis incapable de vous croire. » Et devant la réaction outrée de Karski et de l'ambassadeur qui l'accompagnait, il répondit ensuite « Monsieur l'ambassadeur, je n'ai pas dit que ce jeune homme mentait, j'ai dit que je suis incapable de le croire, ce n'est pas la même chose. » Mais avant même ces rapports officiels, Gerhard Rigner, un jeune avocat devenu représentant en Suisse du Congrès juif mondial, multiplie les alertes dès le début de l'année 1942. Un dossier documenté est alors envoyé à Londres et qui fait état de la situation des Juifs d'Europe nazie entre février 1933 et novembre 1941. C'est ce Gerhard Rigner qui, encore le 8 juin 1942, relaie à Londres des messages très inquiétants des réseaux de résistance polonais. Un télégramme expédié à Londres et aux États-Unis dit d'ailleurs
« Reçu une nouvelle alarmante qu'au quartier général du Führer, discussion et examen d'un plan selon lequel, après déportation et concentration à l'Est, tous les Juifs des pays occupés ou contrôlés par l'Allemagne, représentant 3,5 à 4 millions de personnes, doivent être exterminés d'un coup pour résoudre définitivement la question juive en Europe. » L'informateur est attesté comme ayant des liens proches avec les hautes autorités allemandes et ses rapports sont généralement dignes de foi.
Et nous sommes alors seulement 5 mois après la conférence de Wannsee. Citons encore le cas extraordinaire de Witold Piloki, agent de renseignement du gouvernement polonais en exil pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès le mois de septembre 1940, il propose à sa hiérarchie de se faire enfermer volontairement à Auschwitz, qui n'est alors pas encore un camp d'extermination, pour y prélever des informations et organiser une résistance à l'intérieur du camp. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a connu la torture, le travail forcé et la maladie. Mais il parvient à organiser une unité clandestine. En novembre 1940, il envoie ses premiers rapports à sa hiérarchie, qui sont ensuite relayés à Londres à partir de mars 1941. En 1942, on y trouve les premières informations concrètes portant sur l'extermination de masse, les chambres à gaz, la construction des premiers fours crématoires, etc. L'unité de Pilecki a même été en mesure de construire un poste émetteur radio pour envoyer des messages au cours de cette année 1942. Mais la Gestapo pourchasse ces hommes et en tue certains. L'étau se resserre autour de Pilecki, qui s'évade du camp le 26 avril 1943 après 947 jours de détention. Il écrit alors de nouveaux rapports pour pousser les alliés à attaquer le camp, mais les réactions sont les mêmes qu'avec Karski.
Précisons que l'histoire de Witold Piloki est largement retracée par deux numéros de Rendez-vous avec X, ainsi que par une bande dessinée coécrite par Patrick Penon. Raphaël, comment justifier un tel immobilisme des Alliés ?
Il est difficile encore aujourd'hui de justifier cette inaction, d'autant que nous savons que le camp était à portée de leur tir. Pour preuve, les nombreux survols par la Royal Air Force britannique du camp, avec même la prise de clichés très précis du complexe d'Auschwitz-Birkenau dès le mois d'avril 1944. On en a dit deux mots tout à l'heure. Mais les hommes qui ont analysé ces photos ne recherchaient pas des camps de travail, et encore moins des camps d'extermination. Et c'est en se penchant plus précisément sur ces prises qu'on voit les colonnes de prisonniers allant jusqu'à la chambre à gaz. On voit aussi les immenses panaches de fumée noire sortant des fours crématoires. Mais malgré tous ces faisceaux d'indices, il a fallu attendre la fin de l'été 1944 pour que les premières bombes touchent le camp d'Auschwitz.
Ouais, c'est terrible. Mais comment se justifient les témoins de l'époque? Comment ils se défendent?
Et si l'on écoute le philosophe Raymond Aron, qui a été actif à Londres pendant l'occupation, il explique les raisons de cette incrédulité dans ses mémoires en 1983. Il écrit « Le génocide, qu'en savions-nous à Londres? Ma perception était à peu près la suivante. Les camps de concentration étaient cruels, la mortalité y était forte, mais les chambres à gaz, l'assassinat industriel d'êtres humains, non, je l'avoue, je ne les ai pas imaginés. Et parce que je ne pouvais pas les imaginer, je ne les ai pas su. » Simone Veil, avant sa déportation le 30 mars 1944, explique dans son autobiographie que les Juifs de France eux-mêmes ne savaient pas. « Je n'ai jamais entendu parler à Drancy de chambres à gaz, de fours crématoires ou de mesures d'extermination. Tout le monde répétait que nous devions être acheminés en Allemagne pour y travailler très dur. Mais vers quelle destination ? Faute de le savoir, on parlait de « pitchipoy », terme inconnu désignant une destination imaginaire. Les familles espéraient ne pas être séparées, et c'est tout. »
Gardons-nous peut-être de porter un jugement sur ces hommes et ces femmes. Peut-être que dans quelques années, dirons-nous la même chose devant notre aveuglement sur le sort réservé aux Ouïghours.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Barthas, 107 FM. Bon, refermons maintenant cette parenthèse pour revenir au contexte militaire. Nous sommes donc à l'été 44, Raphaël, et le régime nazi est aux abois.
Oui, juste un dernier mot avant ça pour parler des prisonniers de guerre qui ont vu aussi leur sort confié aux mains de la Gestapo au travers de l'AMT 4A du RSHA. Eux aussi ont connu une détérioration de leurs conditions de détention après 1943, et encore plus lorsque la défaite des forces de l'Axe devint inéluctable. Ainsi, le décret Krugel, adopté le 27 juillet 1944, est pris dans le plus grand secret et prévoyait que les prisonniers qui s'étaient évadés devaient être envoyés à Mauthausen pour y être exécutés d'une balle dans la nuque.
Ah, cela montre bien que le régime commence à entrer dans une forme de panique, de frénésie meurtrière qui n'augurait rien de bon quant à sa survie. Comment réagit la Gestapo pendant l'été 44 au moment du débarquement des Alliés en Normandie, qui prouve bien que les Allemands sont en train de perdre le contrôle de leur territoire?
Mais la Gestapo est nécessairement reléguée au second plan, derrière l'armée, qui a retrouvé sa primauté. Les SS ont quant à eux participé à ces combats, à l'image de la division Das Reich, qui était stationnée dans le sud-ouest de la France pour lutter contre le maquis local, et qui est précipitamment montée en Normandie, multipliant d'ailleurs sur son passage les exactions, à l'image des 99 pendus de Tulle et du massacre des habitants d'Oradur-sur-Glane en juin 44. En dépit de ses renforts, la Wehrmacht a reculé, malgré les semences d'Hitler qui refusaient le retrait de son armée devant les Alliés. Ainsi, la division Das Reich a perdu, lors de la seule bataille de Saint-Lô, au mois de juillet, 60% de ses effectifs. Toutefois, les défaites s'accumulant, de profondes dissensions se sont faites sentir au plus haut niveau de l'État. L'armée a notamment vu ses hauts responsables multiplier les conjurations pour faire tomber Hitler. Mais à chaque fois ou presque, la Gestapo est parvenue à se dresser sur le chemin de ses complots. À terme, les preuves accumulées par la Gestapo ont été telles que le 14 février 1944, elle était en mesure d'obtenir la dissolution de l'Abwehr, c'est-à-dire les services de renseignement de l'armée, qui avaient couvert de nombreux conjurés, dont l'amiral Wilhelm Canaris, ennemi de longue date d'Heinrich Himmler. Ce dernier est ensuite parvenu à éliminer une grande partie de l'état-major allemand, qui était impliqué dans l'attentat raté du 20 juillet 1944, plus connu sous le nom de « Opération Valkyrie ». C'était son triomphe personnel puisque cette fois, la Gestapo disposait d'un contrôle absolu sur toutes les polices et tous les services de renseignement du Reich. Mieux encore, le fourvoiement de ses hauts responsables militaires donnait à Himmler et ses hommes l'occasion de pouvoir enquêter et se saisir des documents personnels des plus hauts gradés de l'armée. Tous ceux qui étaient impliqués de près ou de loin par ces complots ont été condamnés à mort et exécutés au plus tard fin août 1944, comme le désirait Hitler qui dit d'eux « Je veux qu'on les pende comme de la viande de boucherie ». et ses désirs ont été exaucés puisqu'on les a étranglés puis pendus à des crocs de boucher, comme le serait, après eux, Wilhelm Canaris, envoyé dans un camp puis exécuté le 9 avril 1945. La répression s'est poursuivie aussi à l'encontre des amis et des familles des conspirateurs. Dans ce contexte, Himmler et Kaltenbrunner se sont déchaînés. 7000 arrestations ont eu lieu, suivies de presque 5000 exécutions.
Ouais, c'est incroyable. On voit clairement là comment la Wehrmacht se fait saborder par les hommes du RSHA. C'est un peu comme si la Gestapo se tirait une balle dans le pied du Reich allemand, quoi.
Oui, c'est totalement vrai, même si elle ne fait finalement que répondre aux souhaits de Hitler. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas, 107 FM. Mais du coup, dans ce nouveau contexte, la Gestapo ne s'occupe plus que de la défense du Reich.
Non, loin de là. Malgré la débandade militaire qui commence en France, la Gestapo a continué jusqu'au dernier moment à expédier des convois de détenus vers l'Allemagne et la Pologne. Le dernier ordre de Karl Auberg, donné en tant que chef suprême des polices françaises depuis Paris, a été la déportation de 1600 prisonniers vers les camps de la mort le 18 août 1944. Aucun n'est revenu de ce voyage. Après cela, les bureaux de la Gestapo ont migré à Vittel, laissant la capitale française qui devait tenir sous les ordres de Dietrich von Scholtitz jusqu'au 25 août. Hitler, qui avait compris qu'il ne pouvait plus faire confiance aux militaires, a confié à ses proches les diverses divisions de la Wehrmacht. Ainsi, Himmler a enfin obtenu le commandement d'une unité militaire. Légion de volontaires néerlandais et français, les fameux commandos Charlemagne. Helmut Knorren, qui était le plus haut gradé SS en France depuis le début de l'occupation, est rappelé à Berlin par Kaltenbrunner, dégradé et envoyé comme simple grenadier en Tchécoslovaquie, avant d'être rappelé par Himmler à Berlin. Karl Auberg, quant à lui, restait sur les derniers territoires français contrôlés par les Allemands. Ses derniers commandements ont été pris à Saint-Dié, où il s'était installé. Sous ses ordres, la ville est pillée, dynamitée, et ses habitants de 16 à 45 ans, soit 943 personnes, sont déportés. Au début de l'année 1945, les Alliés arrivaient au Rhin. La France, perdue, la Gestapo ne pouvait plus rien y faire. Auberg est réaffecté dans les unités SS combattantes.
Le cas de la France est donc réglé. Qu'en est-il de la suite? Sans aucun général digne de ce nom, comment peut faire Hitler pour tenir?
L'Allemagne est assaillie de toutes parts. Elle se replie sur elle-même. Hitler n'avait plus d'autre choix que de se terrer dans ses bunkers à Berlin et attendre. Ses fidèles d'hier, qui ne voyaient plus aucun salut pour eux, fuyaient ce navire qui sombrait comme ils le pouvaient, quitte à renier celui qu'ils adulaient encore hier. Les uns après les autres, les fidèles de la première heure tombaient en disgrâce, comme Göring ou Ribbentrop, le diplomate en chef dont tous les politiques s'étaient soldés par des échecs, si bien que Göring l'avait qualifié de sale petit trafiquant de champagne. Himmler lui-même a perdu de sa splendeur. Lui, qui était devenu tout puissant après les purges de l'été 1944, a connu sur le plan militaire, qui n'était pas son domaine, de violents revers. Après la perte de la Poméranie, c'est-à-dire le nord de la Pologne actuelle, il est relevé de ses fonctions pour incompétence. Toutes les divisions d'élite des SS, comme Das Reich, les Hitlerjungen, c'est-à-dire les mouvements de jeunesse hitlérienne, qui faisaient la fierté de Hitler, ont connu la même dégradation. Les fonctions militaires qu'il avait accepté de prendre en charge l'ont tenu trop éloigné de Berlin et ses fonctions policières. Résultat, Hitler et son secrétaire personnel Bormann ont pris l'habitude de transmettre directement leurs ordres à Kaltenbrunner. Himmler devenait donc beaucoup moins indispensable. En avril 1945, la situation devient intenable. Les Russes se rapprochaient dangereusement de Berlin et Hitler a autorisé l'évacuation de la chancellerie. Le 20 avril, jour anniversaire d'Hitler, tous les plus hauts responsables nazis encore en vie se sont retrouvés dans le bunker de leur Führer. Néanmoins, Göring, qui ne se voyait pas finir ses jours ici, a anticipé sa fuite de sorte à mettre à l'abri son immense collection d'œuvres d'art. Il a quitté Berlin le soir même, suivi ensuite de Himmler et Ribbentrop, qui se sentaient avoir les épaules pour succéder à Hitler. Mais leurs espoirs ont rapidement été réduits à néant, puisque le 24 avril, Harry Truman, le président des États-Unis, a déclaré qu'il n'accepterait aucune capitulation partielle de l'Allemagne et qu'il ne négocierait pas avec les responsables nazis. Hitler, lorsqu'il a appris quelques jours plus tard cette série de trahisons, a décidé de destituer ses traîtres dans son testament. Le 30 avril 1945, il se suicide, ainsi que sa nouvelle femme et ancienne maîtresse, Eva Braun. Ils sont suivis de Goebbels et de toute sa famille. Ce qui restait du pouvoir de commandement nazi est alors confié à l'amiral Karl Dönitz. Ce dernier décide de capituler une semaine plus tard, le 6 mai 1945. Himmler, qu'il avait rejoint pour intégrer ce nouveau gouvernement, était devenu très gênant. Il en est donc exclu et tente de fuir. Le 8 mai, la capitulation allemande est entérinée. C'est la fin de la guerre en Europe. Le 20 mai, Himmler a tenté de rejoindre la Bavière, mais il est arrêté par les Britanniques et se suicide dans leur geôle.
Avec les morts d'Hitler et de Himmler, la déchéance de Göring, on peut considérer que le régime nazi est déjà mort et que la Gestapo est orpheline de ses pères fondateurs. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent, les derniers grands ponts de ce qu'était la Gestapo ?
Les autres responsables nazis, et notamment ceux de la Gestapo, ont été capturés et jugés à la fin de la guerre. Hermann Göring et Ernst Kaltenbrunner, respectivement fondateurs de la Gestapo et chef du RSHA, étaient des têtes d'affiche du grand procès qui se tient à partir du mois d'octobre 1945. Tous deux sont condamnés à mort, même si Göring se suicide 2 heures avant son exécution. Les responsables de la Gestapo en France, Helmut Knorren et Karl Auberg, sont capturés, renvoyés en France afin d'y être jugés en 1954. Tous deux sont condamnés à mort, puis graciés. Ils sont sortis des prisons françaises en 1974. Adolf Eichmann, le chef du bureau des affaires juives au sein du RSHA, l'un des acteurs principaux de la mise en place du génocide, a réussi à fuir jusqu'en Amérique du Sud. Il n'est retrouvé par les services secrets israéliens, le Mossad, qu'en 1960. Jugé en Israël l'année suivante, il est pendu le 1er juillet 1962. À côté de ça, certains semblent être passés à travers les mailles du filet. Nous pouvons évoquer les cas les plus connus en France, comme Klaus Barbie, chef du SD à Lyon et responsable de la mort, entre autres, de Jean Moulin. Il n'est arrêté et jugé qu'en 1987. Paul Touvier, chef de la milice lyonnaise, est capturé en 1989. René Bousquet, le secrétaire général de la police sous le régime de Vichy, est passé au travers de l'épuration en 1944 et a pu mener une belle petite carrière d'homme d'affaires jusqu'à devenir un proche de François Mitterrand. Il n'est inquiété par la justice qu'au début des années 1990, puis est assassiné juste avant son procès par un déséquilibré. Citons encore le cas plus emblématique de Heinrich Müller, chef de l'AMT 4 du RSHA, c'est-à-dire le service de la Gestapo, qui a tout bonnement disparu. Plusieurs théories évoquent un exil en Amérique du Sud, comme bien d'autres anciens officiers nazis. Plus probablement, il serait mort lors de sa tentative de fuite de Berlin fin avril 1945. Toutefois, il est vrai que certains ont réussi à disparaître dans la nature et ont rapidement trouvé du travail ailleurs, que ce soit dans les grands services d'espionnage étrangers comme le KGB ou la CIA, ou auprès de grands dictateurs qui ont eu besoin de leur expertise pour maîtriser les foules, notamment en Amérique du Sud. On en trouve notamment au Chili de Pinochet, après que celui-ci ait accédé au pouvoir en 1973, à la très étrange colonie Dignidad, qui sert de refuge à tous les nazis.
Ainsi s'achève un peu dans le flou la terrible histoire de la Gestapo qui, même après la chute du Reich, continue de faire parler d'elle tant les traumatismes et les crimes commis ont marqué leur temps. Indubitablement, elle est le miroir de ce que fut le Reich tant son rôle est resté chevillé au bon fonctionnement de la dictature hitlérienne et ce depuis l'accession du Führer à la chancellerie il y a juste 90 ans, le 30 janvier 1933. La Gestapo et la SS, toujours sous l'autorité de Himmler, organisèrent ainsi la mort de presque 10 millions de civils et de prisonniers de guerre. Les dernières années de la guerre ont été sans conteste les plus terribles. La Gestapo était alors à l'apogée de sa puissance, à l'image de ses chefs, qui faisaient tous partie du premier cercle d'Hitler. Pourtant, déjà la défaite des forces de l'Axe se profilait à l'horizon. C'est presque comme si, alors que tous commençaient à comprendre que la chute était inéluctable, notamment le commandement militaire allemand, la priorité était donnée à l'élimination des races parasites et à la Gestapo plutôt qu'à l'effort de guerre ou à l'armée, à l'image de cette immense purge de l'état-major qui eut lieu durant l'été 1944, alors que le Reich était pris en tenaille sur deux fronts. On pourrait presque croire que la Gestapo, tel un cancer, dévorait alors de l'intérieur le Reich jusqu'à accélérer avec frénésie sa mort. Jusqu'au dernier jour du Reich, les fours crématoires des principaux camps d'extermination continuèrent de fonctionner à plein régime, alors même que tout était perdu depuis bien longtemps. C'est comme si la haine et l'instinct meurtrier avaient définitivement pris le dessus sur toute forme de logique et de rationalité. Après, les nazis ont bien tenté d'effacer les traces de leurs crimes, encore conscients des atrocités commises. Mais ceci était si énorme, la terre était gorgée de tant de sang, que rapidement la vérité du massacre éclata malgré ses efforts. Les quelques chefs nazis capturés furent tous jugés et condamnés. La Gestapo fut reconnue par un tribunal international comme une organisation criminelle et marquée au fer rouge d'un sceau de la honte, un régime nazi que l'on espère à tout jamais relégué dans les bas-fonds de l'histoire de l'humanité. C'était Clin d'œil à l'histoire, épisode numéro 14, la Gestapo, dernière partie. Une émission préparée par Raphaël
et Ben
sur Radio Bartas, 107 FM.
le dernier succès du docteur Goebbels avec la photographie du Führer et des principaux collaborationnistes en uniforme de pendu. Demandez la complainte des nazis. Écoutez bien, on va vous chanter le premier.
Une année finie, l'autre commence. L'un après l'autre, les mois s'avancent, apportant dans leur cortège bleu la promesse de jours plus heureux. Et pendant que la victoire s'apprête à revêtir ses habits de fête, le voile noir des désastres s'étend, oui, sur le Reich et ses derniers amis. C'est la complainte des nazis, le crépuscule avant la nuit, qui met au cœur des Hitlériens l'âpre terreur du lendemain. Elle exprime par ses accents la sourde angoisse du châtiment. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Miliciens, mouchards, tristes apôtres, cette complainte est également la vôtre. Vous les traîtres, les vendus, les vomis, vous les lâches et les la vôtre aussi. Tortionnaires, bourreaux et mercenaires, et le rythme votre heure dernière. Collaborateurs, écoutez-la bien, c'est pour vous que chante ce refrain. C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Et en chœur,
c'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences,